terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Pas possible que je me mette à rire au moment où je vais recevoir la mairesse Côte des Neiges, notre dame de grâce, madame Gracia Kasoki Katawa. Bonjour Gracia. Je vais dire le prénom parce que bon, on se connaît quand même, membre du comité exécutif responsable des ressources humaines, de la lutte contre le racisme et les discriminations. Très content de vous recevoir, madame la mairesse. Très content de vous recevoir dans ce studio. La dernière fois qu'on s'est parlé, et je regardais, c'est au lendemain de l'élection.
Oui.
Puis je voyais ça, puis ça fait un moment. On a physiquement, on a changé un peu tous les deux. Il y a quand même quelques années qui sont passées et tout. Beaucoup de charges. Comment ça va?
Ça va bien.
Bien?
Oui, ça va bien.
J'aime entendre ça dès le début. Très heureux de. Je vais faire très plaisanterie avec vraiment la permission, ta permission. Je vais te tutoyer, ce qui n'enlève rien au sérieux de notre entretien. Mm-hmm. Il était temps que je parle avec toi parce que je voulais un peu faire un bilan, un mini bilan. De cette élection, de ta place à l'arrondissement Côte des Neiges Notre-Dame. Toi, ça va? L'arrondissement, bilan, comment ça va?
L'arrondissement, honnêtement, va bien. Puis je le dis avec une certaine réserve parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais je suis vraiment contente du travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Puis c'est vraiment pas la langue de bois politicienne, mais... vous savez, moi, j'ai été, les auditeurs, mm-hmm. voilà, incluant mon père qui nous suit, je dois dire.
Alors là, je vais faire attention alors à ce que j'ai dit.
Mais en fait...
Et on le salue.
Durant la dernière campagne, un élément de mon profil qu'on mettait de l'avant, c'était l'élément de gestion. Et c'est vraiment salvateur, mes compétences en gestion que j'ai développées au cours des dernières années. Pourquoi je dis ça? Et parce que c'est très lié au fait que ça va. On se rappellera... En 2021 et les mois précédents, c'était particulier l'ambiance entre le politique et l'administratif à Côte des Neiges NDG. Et les citoyens ne le savent peut-être pas, mais ça a un impact sur le service aux citoyens, ça a un impact sur la façon dont on livre le service public lorsque le politique et l'administratif ne s'entendent pas. Mmh. Et bien que c'est peut-être difficilement palpable pour les citoyens, ça a été une des premières choses qu'on a fait, c'est-à-dire rétablir la confiance, la relation de confiance et le respect mutuel entre... le politique et la fonction publique. Ce que ça a fait, c'est que on a dès le départ travaillé ensemble pour développer un plan stratégique puis donner une vision pour jusqu'en 2030 pour l'arrondissement. Une vision qui est basée sur des piliers comme faire de Côte des Neiges NDG un arrondissement vert, résilient, donc tout ce qui est lié à la transition écologique, faire de Côte des Neiges NDG un arrondissement inclusif. Au-delà du fait que c'est le quartier le plus diversifié à Montréal et parmi ceux les plus diversifiés au Canada, mais réellement inclusif, notamment dans la participation citoyenne, et un quartier vibrant. Donc, tout ça, c'est des mots-clés et ça paraît un peu trop de haut niveau, peut-être, comme discussion, mais l'impact de ça, c'est lequel? C'est qu'à partir du moment où on a donné une vision commune, administrative et politique, ben, les employés de l'arrondissement travaillent en ce sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans nos bibliothèques, les spectacles qui sont offerts à la population, c'est des spectacles qui sont en effet diversifiés. Mm-hmm. Donc, on retrouve des artistes de vraiment tout style, tout type d'art, de provenance diverse, etc. Ça veut dire que lorsque nos services planifient la plantation d'arbres, mais je n'ai pas besoin de leur dire, vous savez quoi, il faut planifier la plantation d'arbres dans des secteurs qui sont, où il y a des îlots de chaleur, qui sont en général des secteurs qui sont beaucoup plus vulnérables, parce que ça n'a pas été fait avec les administrations précédentes. Mm-hmm. Donc, j'ai été en mesure d'établir ces priorités et ces valeurs qui sont importantes pour notre administration, de les insérer dans la fonction publique. Et les équipes travaillent en ce sens. Et ça, pour moi, c'est une belle réussite. Mm-hmm.
Je veux revenir un tout petit peu en arrière. Mm-hmm. Tu es élu en 2021. Mm-hmm. J'ai pas besoin de le rappeler aujourd'hui. Je pense que tout le monde le sait. Tu es la première femme noire élue maire des arrondissements. Mm-hmm. Dans la métropole montréalaise. Toutefois, quand tu arrives, tu n'as pas d'expérience politique. Tu arrives là, combien de temps d'adaptation? Comment on rentre dans les dossiers? Je te pose la question, Gracia, parce qu'il est évident que quand tu as été élue, tout le monde t'a regardé. Hommes, femmes, personne noire, personne blanche, parce que c'était nouveau. Donc, tu avais les yeux sur toi. Et d'ailleurs, je pense que tu as toujours les yeux sur toi. Comment s'est passée l'adaptation, sincèrement? D'apprendre tout ce mécanisme municipal. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Déjà, il faut savoir qu'on apprend encore, parce que la vie, ce n'est pas simple. Moi, je viens du service public comme infirmière, gestionnaire, donc j'ai navigué le réseau de la santé, qui n'est pas simple. Mais la ville n'est pas simple non plus, parce qu'elle collabore avec plusieurs paliers de gouvernement, avec plusieurs partenaires locaux, etc. Donc, j'apprends toujours. Je dois mettre ça très humblement sur la table. Toutefois, un élément qui a facilité mon intégration, c'est... puis encore là, c'est pas partisan, mais c'est la vérité. C'est que j'ai intégré une famille politique qui croyait réellement en moi, qui croyait réellement à ce qu'on pouvait faire pour Côte-des-Neiges Indigie, qui croyait réellement qu'ils travaillaient avec la bonne personne pour amener les changements qu'il fallait amener dans l'arrondissement. Et ce que ça fait, ça, c'est que dès les débuts, c'est-à-dire la recherche de la direction de cabinet, donc la personne qui va m'accompagner au quotidien pour amener ces transformations, la proximité avec la direction de cabinet de la mairesse Plante, la proximité avec la mairesse Plante pour être en mesure de leur soulever, en fait, les difficultés qu'on a, tout ça, c'est extrêmement précieux et ça témoigne vraiment de la bonne collaboration et le soutien en fait que j'ai du cabinet de la mairesse à la ville de Montréal pour qu'on puisse être en mesure de réussir ce qu'on a à faire. Et vraiment, ça a été salutaire pour passer à travers les 2 ans. Je dis que j'apprends toujours, mais je vous dirais que les 1 an et demi, disons, tout est nouveau, là, alors qu'après le 1 an et demi, ben, tu as déjà fait un cycle complet, etc. Et il y a certaines choses qui deviennent familières. Mais donc, le soutien de mes collègues, et pas seulement du cabinet, hein, j'ai des collègues, des maires et mairesses de d'autres arrondissements qui ont été, que je peux appeler toujours, qui sont vraiment des mentors pour moi. J'ai constitué une équipe diversifiée. Comme on dit... en bon québécois, il faut que les bottines suivent les babines.
Tout à fait.
C'est-à-dire, j'ai souvent parlé de l'importance d'avoir des équipes diversifiées. Ben, j'ai fait exactement ça lorsque j'ai constitué mon équipe de cabinet. Et ça nous a aidé à naviguer les divers profils, les divers parcours qu'on a dans l'arrondissement. Donc, j'ai des personnes issues des communautés noires, des communautés juives, arabo-musulmanes, des personnes de la communauté LGBTQ. Il y a de plus, ça a permis au directeur d'arrondissement de voir que, ben, en fait, cette mairesse, c'est pas que pour l'image qu'elle parle de diversité, elle l'applique elle-même. Donc, tout ça, voilà, sont des éléments qui m'ont permis de naviguer. Je sais que c'est une réponse longue, mais je dois citer autre...
Non, on est là pour
Discuter, ouais, je parle vite, mais on est là. Le fait que je ne sois pas seule, c'est aussi un élément qui m'a beaucoup aidée dans mon intégration et qui m'aide toujours. C'est-à-dire que je n'ai pas été la seule femme noire élue, que ce soit dans mon équipe politique et même...
dans d'autres familles politiques, même dans les villes à côté.
Dans d'autres familles politiques, exactement. Et ce qui fait en sorte que j'ai maintenant, moi, personnellement, donc on est 6 femmes noires à Projet Montréal à avoir été élues. Il faut savoir que le président de notre parti aussi est un homme noir haïtien, Guédouic Bernier. Donc, c'est tout autant de personnes que je peux contacter lorsque je vis des incertitudes, des moments plus difficiles, pour valider un peu le sentiment que j'ai. Et ça, c'est précieux. Je l'ai dit un peu plus tôt, là, ce mois-ci, je ne sais pas comment des personnes comme Yolande James ont fait, et d'être seule. Des choses aussi banales que parler de... Bon, la couleur de tes vêtements, ton appât, le maquillage, mais aussi la perception que tu as de la réaction de certaines personnes à ta présence comme la personne qui préside les conseils d'arrondissement. Ah, tel citoyen m'a répondu de telle façon ou la régie de telle façon. Est-ce que c'est vraiment ma conduite du conseil d'arrondissement le problème ou le fait que je suis une femme noire jeune en position de pouvoir? Et le fait d'avoir des personnes avec qui on peut discuter de ces choses-là, ça fait extrêmement du bien pour la santé mentale et physique, je dirais. Je suis vraiment contente d'avoir fait le choix de cette famille politique. Et c'est un élément qui a fait en sorte que j'ai choisi cette famille politique, notamment, mis à part les transformations qu'ils faisaient dans la ville. Mais si j'avais vu que j'étais la seule, je ne suis pas certaine que j'aurais dit oui. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on est fatigué d'être seul.
Tout à fait. Les heures, j'imagine que ça on ne les compte pas. Je sais que les heures de travail. Je sais que tu as toujours
les
été.
Les heures de travail.
On ne parle même pas de ça. Il n'y a pas d'heure de travail.
Non, mais honnêtement, c'est un rôle où on ne compte pas les heures. Mm-hmm. Je pense qu'on arrive aussi dans ce rôle en étant quelqu'un qui ne compte pas ses heures. Je pense qu'on se connaît depuis mm-hmm. longtemps et les personnes qui me connaissent vont savoir que j'étais toujours très impliquée et je ne comptais pas mes heures. Donc, bien que j'avais mon emploi dans le CIUS qui me payait mon salaire, j'étais après le travail dans les 5 à 7, la fin de semaine dans des conseils d'administration en train de préparer des rencontres. Exactement. Donc, c'est une intensité différente, mm-hmm. mais je pense que...
Est-ce que la mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, est accessible? Parce que lorsque j'ai annoncé que tu étais l'invité de mm-hmm. l'émission, il y a des citoyens qui m'ont écrit. Il faut lui dire que.
Oui.
Il faut. Bon, j'essaie de rassembler ça et je vais voir comment je vais intégrer ça dans mes questions. Mais quels sont les défis aujourd'hui à Côte-des-Neiges? Notre-Dame-de-Grâce. Parce que c'est grand quand même comme arrondissement.
C'est très
extrêmement avec, grand. Est-ce que j'ai dit une bêtise si j'ai dit qu'il y a vraiment une disparité entre les deux villes ou pas?
En fait, c'est le même arrondissement. Moi, okay. je le répète souvent, sauf que il y a le secteur dans Côte-des-Neiges et le secteur Notre-Dame-de-Grâce. Et les gens voient souvent ces deux entités comme des entités distinctes. C'est divisé par le boulevard des l'autoroute des Carrières notamment, mm-hmm. mais même à l'intérieur de ces entités, il y a des distinctions. Donc ça, tout ça nous amène à regarder des secteurs de l'arrondissement vraiment comme c'est un tout, mais il faut être en mesure de considérer les particularités de chaque secteur. Donc, notamment dans Notre-Dame-de-Grâce, on a le secteur Walkley, West Haven, donc plus à l'ouest, qui sont des secteurs où il y a différentes couches de vulnérabilité. Donc, ça nous amène à intervenir différemment lorsqu'on intervient dans le village Monklin, sans toutefois ignorer les besoins des familles qui habitent dans le village Monklin. Même chose du côté de Côte-des-Neiges, on a souvent la distinction entre le haut et le bas de la côte de Côte-des-Neiges, le secteur Glenmont et un secteur Darlington qui est juste à côté. Donc, chaque secteur de l'arrondissement a ses particularités et c'est le plaisant avec la politique municipale, c'est qu'on est en mesure de comprendre ces différentes granularités-là et d'intervenir selon les besoins là, des différents secteurs spécifiques.
Donc, de manière, je veux dire quoi, spécifique, il n'y a pas de défi particulier. Quand tu fasses à Côte-des-Neiges, par exemple, quels sont les défis? Je vous pose la question, quels sont les défis?
C'est les défis de tout l'arrondissement. Donc, bon,
logement,
un défi, exactement. Voilà. Je veux dire, un défi qui touche toute la ville de Montréal, qui est une priorité du directeur, en fait, de la mairesse de Montréal et du directeur général, c'est l'habitation. Ça a toujours été une priorité ou un enjeu dans le secteur de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, à cause du nombre de personnes qu'on est, à cause du... On a beaucoup de blocs appartements de 9 logements et plus, donc ça amène des défis, notamment en termes de salubrité parfois, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui habitent dans un court quadrilatère, mm-hmm. là, je veux dire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un défi. Puis on travaille très fort sur l'habitation. J'ai très hâte au prochain mois. Où on va parler de projets qui s'en viennent.
Qui s'en viennent.
Namur-Hippodrome, par exemple.
Je sais que c'est le projet phare. Parce que je voulais poser la question, je pose la question dans le sens où mairesse d'arrondissement,
ouais.
un problème lié au logement,
ouais.
La mairesse d'arrondissement n'a pas toutes les clés.
Ouais.
C'est la ville, c'est le provincial, mm-hmm. c'est même le fédéral. Et quand c'est toi qui dois répondre à des citoyens mm-hmm. et qui te voient en disant « mais tu es la personne la oui. plus proche de nous », comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on traverse
ça? Ça fait partie des choses qui sont difficiles à naviguer. De un, il faut se mettre à la place du citoyen. Quand le citoyen nous dit « là, il faut agir sur le logement », moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés à dire « en fait, il faut aller parler à la ville-centre, il faut aller… Mm-hmm. » Ça peut être tentant comme politicien parce que la réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement ta responsabilité directe, mais tu es, comme élu municipal, l'élu le plus près des citoyens. Donc, tu te dois de prendre ce besoin-là qui t'est signifié et ensuite d'aller le relayer à tes partenaires. Mais il faut aussi se concentrer sur ce que nous, on peut faire comme arrondissement. Donc, on met beaucoup d'énergie puis de l'argent aussi à soutenir les organismes communautaires qui offrent du soutien aux locataires pour que les locataires puissent connaître leurs droits. On met de l'argent pour toute la question de l'insalubrité. On s'assure, on pose beaucoup de questions à nos services pour s'assurer que à chaque fois qu'on doit aller remettre un ticket, j'ai juste ticket dans la tête là, mais dire à un propriétaire que ben, vous ne respectez pas nos standards en termes de salubrité, on s'assure de demander au service de faire les suivis de ça. Donc ça, ce sont nos pouvoirs en arrondissement. Ce qu'on fait aussi, c'est que moi, je travaille beaucoup pour enlever le plus possible les bâtons dans les roues. les bâtons dans les roues, c'est pas le bon terme, mais les défis que les propriétaires peuvent avoir parfois pour faire le développement d'immeubles. Donc, dès que je suis arrivée, il y a un secteur là près du métro Vendôme qu'on a débloqué. Ça bloquait depuis plusieurs années. On est en mesure de le débloquer. Donc, ça, c'est des choses que les citoyens ne voient pas tout de suite. Mais ce secteur-là est planifié. Dans les prochaines années, il y a du logement qui vont se développer. Mm-hmm. Donc, il faut agir à la fois sur les leviers qu'on a, effectivement, en arrondissement, qui sont notamment la salubrité, le soutien aux organismes communautaires, etc., et être en mesure de faire des rencontres avec la directrice générale de l'OMHM, ce que j'ai fait, pour savoir, OK, tous les buildings qui vous appartiennent dans l'arrondissement, pourquoi ils ne sont pas rénovés, quand est-ce qu'ils seront rénovés, qu'est-ce qui se passe, où ça bloque. Et lorsqu'on sait où ça bloque, ben, on va parler à nos collègues du fédéral ou du provincial pour voir avec eux, écoutez, ça bloque à votre niveau, avancez là-dessus. Donc, c'est très complexe. C'est vraiment des interventions chirurgicales qu'il faut faire. Mais chaque logement de plus est un gain, en fait.
Je veux ramener un sujet d'actualité à ton arrondissement, qui est un arrondissement, on l'a dit, diversité. Mm-hmm. Avec tout ce qu'elle a de beau, la diversité, en termes de cohabitation, mais aussi ce qu'elle peut avoir de très... Alors, comme j'ai utilisé le terme beau, je vais utiliser le contraire, avec tout ce qu'elle peut avoir de laid. En termes de cohabitation. On sait que des communautés musulmanes, on trouve des communautés musulmanes, on trouve des communautés juives. Le conflit à l'heure actuelle en Palestine, ce qui s'est après l'attaque du Hamas, donc la réaction d'Israël à Gaza, a eu des répercussions à Montréal. On ne peut pas mettre la tête dans le sable et faire comme si on ne l'a pas vu. On l'a vu dans les universités, notamment à l'université Concordia. Mais on a aussi entendu à un moment donné des nouvelles qui sont venues de l'arrondissement. Ouais. Première chose, comment, quand ça vient comme ça, qu'est-ce que, en tant que personne, comment tu le vis? Et après, la mairesse, comment elle a réagi à ça?
Écoutez, moi, je me rappelle la première fois... depuis le 7 octobre, il faut savoir que nous, le SPVM, notamment localement, est très mobilisé dans les lieux d'intérêt des communautés juives et musulmanes. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien parce qu'ils interviennent dans l'arrondissement depuis longtemps. Donc, ils étaient déjà aux aguets, en fait. Puis, il y avait d'autres événements aussi antisémites, là, d'actes haineux qui étaient arrivés ailleurs, dans Montréal. Si je me rappelle bien, c'était à Dollar des Ormeaux. Je me rappellerai toujours de là où j'étais quand j'ai eu la nouvelle qu'il y a eu deux écoles juives qui ont reçu des projectiles un matin. J'étais en train de me préparer pour aller au CECAM pour qu'on puisse célébrer Franz Saint-Élémy. Et j'ai eu cette nouvelle et mon premier réflexe a été de dire « je vais aller sur le terrain ». Et ça, je pense que c'est un réflexe qui vient de mon infirmière. Ouais, exactement, de mon background
prendre
d'infirmière.
Prendre soin,
je veux dire, j'ai été quand même infirmière gestionnaire durant la pandémie. Okay. C'est-à-dire, et ce qui nous a sauvés, c'était d'être en mesure d'aller sur le terrain. Mm-hmm. En fait, ce qui nous a sauvés, mais ce qui nous a permis de sauver les gens, c'est d'être en mesure d'être là pour comprendre exactement ce qui se passe, etc. Donc, ça a été mon premier réflexe. Je suis allée sur le terrain. Je suis allée voir les directeurs, les parents, etc. Et ça m'a permis de parler au cabinet de la mairesse et de dire, écoutez, je suis là, sur le terrain, voici ce qui se passe. Sentiment d'insécurité. Il faut s'assurer de renforcer les ressources du SPVM. Ils sont déjà là, c'est très bien, mais voici ce que la communauté demande, etc. Donc, ça a été vraiment mon premier réflexe. Et malheureusement, c'est arrivé encore une troisième fois, finalement. Donc, une deuxième fois dans une même école, une semaine après. Même chose. C'était arrivé dans la nuit. Donc, le matin, je me réveille, c'était un dimanche. Encore une fois, je suis allée sur le terrain, cabinet de la mairesse. Donc, Vous m'avez posé la question sur comment je me sens comme humain, ensuite comme mairesse. Mon réflexe de toujours, que ce soit comme infirmière ou comme mairesse, c'est de me dire là, mes propres émotions pour l'instant là, c'est pas ça qui importe.
Qui compte, ouais.
Il faut, la seule émotion que je dois avoir en ce moment, c'est le courage. Donc, je prends mes affaires et je m'en vais sur le terrain. Puis on verra, selon ce dont les gens ont besoin, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, par contre, tu te dis, mais attends. Là, depuis le 7 octobre, voilà, il y a eu l'attentat terroriste du Hamas, il y a eu finalement les répliques d'Israël, etc. Et j'ai l'impression que les gens de Côte-des-Neiges, NDG, vivent ce qui se passe là-bas. Puis c'est peut-être trop fort, mais c'est-à-dire qu'il y a des familles ici qui ont des familles là-bas. Donc, je dis c'est trop fort, mais non. Étant congolaise aussi, parfois lorsqu'il y a des troubles en RDC, ben, on le vit dans nos maisons. Là, c'est-à-dire que je vois ma mère pleurer, crier la nuit, etc. Donc, je peux m'imaginer que c'est similaire dans la maison de plusieurs personnes à Côte-des-Neiges NDG. Et c'est ça qui... C'est un grand sentiment d'impuissance, là, de savoir qu'il y a des familles qui vivent ça. Mais en même temps, je pense que notre rôle comme élu, c'est de dire ce qui n'est pas acceptable dans cette ville. Donc, les actes, incidents haineux, antisémitisme, islamophobie, on l'a répété à plusieurs reprises que c'est des choses qu'on n'accepte pas dans la ville de Montréal. Et les gens se disent parfois que les paroles ont moins d'importance que les actes. Mais je pense que lorsqu'on a un rôle comme le nôtre, je pense que les paroles sont importantes. Non seulement ce que je disais dans les médias, mais les gens m'écrivaient, j'étais en mesure de leur dire ça, j'étais en mesure de leur expliquer ce que je faisais au quotidien pour m'assurer de leur sécurité. Donc, c'est un travail en continu. Puis aujourd'hui, je suis responsable de la lutte au racisme et aux discriminations. Ça sera une priorité pour moi là, de voir comment est-ce qu'on fait face à la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie.
Est-ce que vous avez essayé de rassembler les leaders des communautés pour avoir des tables de concertation, bref, de discuter un peu pour calmer ce qui se passe?
Pour l'instant, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est de rencontrer les leaders dans leur communauté. Je suis en discussion pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire, peut-être pour rassembler des leaders de différentes communautés. Il y a le CRAR là, de Fonemi qui l'a fait une fois qu'il a rassemblé des femmes de différentes communautés, pas que juives ou arabo-musulmanes, mais de différentes communautés. Ça a été très puissant, leur message. Mais clairement, on doit continuer ce travail-là parce que clairement, c'est encore très vif dans le quotidien de plusieurs personnes dans l'arrondissement.
Gracia Kasoki Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame de Grâce. Je propose qu'on fasse une pause.
D'accord.
Et on continue notre entretien.
Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekwala et son équipe. Néo-Québec, tous les dimanches, de 15h à 17h sur CIBL.
On est toujours en compagnie de la mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame de Grâce, Gracia Kasoki Katawa, que je remercie vraiment pour le temps qu'elle nous accorde. Je dois vraiment dire merci pour ça, parce que c'est quand même pour quelqu'un d'occupé comme elle, parce que on n'a pas fini dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Il y a quand même encore beaucoup de sollicitations. Vous êtes sollicité un peu à gauche, à droite. Je sais qu'il y a là, en ce moment d'ailleurs, qui se termine un tournoi, je tiens à le signaler, un tournoi de basket qui se joue au Vieux-Montréal, organisé par le CRA, qui a commencé hier, qui se termine aujourd'hui. Puis il y a différentes sollicitations dont on va parler. Je voudrais aborder un autre chapitre dans le parcours. Une fois élu à la mairie d'arrondissement, il y a eu, et c'est ça qui pour moi a inauguré le mois de l'histoire des Noirs, c'est cette nouvelle, cette nomination au comité exécutif de la ville de Montréal. Je le dis pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu l'élection de 2021 et que le comité exécutif a été constitué, tout le monde attendait à voir Gracia Kasoki, puis ça n'a pas été le cas. Puis il y avait comme un genre de une petite déception, un tout petit peu. Mais comme je dis souvent, moi, ma philosophie, c'est que toute chose arrive à point. Donc, c'était le bon moment. Mais en plus, alors, avec une responsabilité particulière, celle des ressources humaines et la lutte contre le racisme et les discriminations. Lorsque Madame Plante, qui... bonjour, Madame la mairesse, j'imagine qu'il nous écoute. Lorsque... elle dit à Gracia Kasoki, ben voilà, je voudrais que tu rentres au comité exécutif, voici ta feuille de mission, voici ce que j'attends de toi. Quelle est la réaction? C'était attendu? C'était voulu?
En fait, je veux dire, c'est jamais quelque chose qu'on... on peut jamais avoir de certitude là-dessus. Mm-hmm. Puis ça se fait vraiment dans les heures qui précèdent l'annonce, hein, pour chacun des élus. Il faut savoir que lorsque j'ai été élue, je comprends là que vous me parlez de la déception, mais avec justement la mairesse Plante, elle a discuté avec moi. Puis elle m'a dit qu'elle avait des aspirations pour moi, mais qu'elle tenait à ce que je réussisse. Et que pour elle, avec l'expérience qu'elle a, avec l'arrondissement que j'ai, elle voulait me donner une chance de réussir. Et que pour ça, elle voulait que je me concentre sur l'arrondissement.
Question de faire ses preuves un peu?
Non, ce n'est pas les preuves. C'est qu'il y avait, il y a du travail à faire. Comme j'ai dit, il y avait une confiance à rétablir. Mm-hmm. C'est un grand arrondissement avec des enjeux très divers. Donc, le temps que je comprenne et que je m'approprie ce rôle et que je trouve une cadence de travail dans ce rôle de mairesse, pour elle, c'était vraiment une façon de s'assurer que je puisse réussir dans ce rôle-là d'abord, avant de pouvoir me donner davantage de responsabilités. Donc, ça a été très bien planifié par la mairesse, je dirais. Donc, je ne savais pas, parce qu'il n'y a aucune certitude, on ne sait jamais comment l'actualité, finalement, ce que l'actualité va avoir comme impact, mais ça faisait déjà... on avait eu cette conversation en début de mandat, je vais dire ça comme ça. Et puis ensuite, lorsque ça arrive, donc on te convoque pour une réunion un peu nébuleuse, quelques heures avant l'annonce. Toi, tu ne sais pas encore qu'il y aura une annonce, mais on te convoque, une réunion très courte avec des personnes très importantes, dont la mairesse. Tu te dis, bon, peut-être que c'est ça. Tu n'as aucune idée de ce que ce sera. Et on me convoque dans le bureau de la mairesse, avec le président du comité exécutif, puis la direction de cabinet. Et voilà, on te dit, voici tes responsabilités, voici les priorités par rapport aux responsabilités. Est-ce que tu as des questions? Merci. C'est une réunion de 15 minutes.
15 minutes, maintenant.
15 minutes ensuite, bref, tu continues ton parcours dans la direction de cabinet pour poser davantage de questions. Mais je le dis parce que c'est toujours quelque chose qui est assez nébuleux pour les gens, comment ça se passe, ce genre de choses. Mais voilà, c'est... comme ça que ça se passe.
Ouais. Pression ou alors défi quand on t'annonce les restes? Je sais déjà plus ou moins quelle est la réponse, mais pression ou défi?
Les deux. Les deux. C'est-à-dire, moi, je dis moi, puis c'est des choses que j'ai validées avec justement mes collègues autres élus femmes noires. Moi, j'essaie de planifier. Tout ce que je peux planifier à l'avance, je le planifie. Donc, je ne savais pas que ça allait arriver, mais j'avais déjà préparé mon équipe quand même depuis quelques mois. Je leur avais dit, écoutez, je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça arrive, ça veut dire que, bon, l'arrondissement reste une priorité. Voici comment on doit réorganiser mon agenda. Voici. Donc, et si ça n'arrive pas, ben on va juste réorienter finalement nos priorités par rapport aux deux prochaines années. Donc, considérant que j'avais déjà entamé ce travail, lorsque ça a été fait, ça a été annoncé, mon équipe était comme déjà prête à assumer ce changement. Donc, ça a permis de diminuer un peu la pression en termes de comment est-ce que j'assume les deux rôles. Pression, à cause du contexte, je dirais, à cause de la personne que je suis, les responsabilités qui m'incombent, les impacts qu'on a vus du racisme et des discriminations systémiques chez les employés de la ville de Montréal, l'importance du dossier de la réconciliation aussi. Donc, en ce sens-là, oui, il y a de la pression. Je veux absolument bien faire. Donc, la pression, elle vient pas tant de la mairesse Plante et de son cabinet.
Plus de
moi. Mm-hmm. Et, 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 et des attentes que je suppose qu'il y a dans les différentes communautés par rapport à ces responsabilités-là. Mm-hmm. Mais aussi des défis. Puis c'est là où, ça fait quelques jours, j'ai dit à mon mari, je ne savais pas, mais je pense que je suis, comme on dit en anglais, workaholic. Je pense, mm-hmm. je ne sais pas. Mais on dirait que j'ai plus de responsabilités et ça me stimule.
Il y a
quoi.
Comme une stimulation, une motivation.
Il y a une motivation qui vient avec ça. Donc, parce qu'il y a des défis qui sont intéressants puis que je suis prête à relever.
Parce que là, effectivement, j'ai dit, OK, quand on accède au comité exécutif, tous les départements, ou je ne sais pas comment vous appelez ça exactement, mais tous les départements ont une importance. Mais celui des ressources humaines, dans le contexte, probablement que ça a toujours été très important, mais dans le contexte des derniers mois, pour ne pas dire dernières années, associé à la lutte au racisme, c'est pas la lutte au racisme à l'extérieur, mais c'est la lutte au racisme et aux discriminations à l'intérieur de la ville. C'est pour ça que je parlais de pression ou alors de défi. Quand on a une responsabilité comme celle-là, c'est pas comme si on vous avait attribué, je ne vais pas me fâcher avec quelqu'un du comité exécutif dont je vais pas donner de département précis, mais je veux dire, c'est pas comme si on avait donné un autre département. Ce d'autant que la personne à qui on confie ça, c'est vous, Gracia. Donc, il y a plus de défis. Les ressources humaines, quand on pose le allez, voilà, on va dire, on va ouvrir la page, on met ça ressources humaines, il y a de gros, gros, gros défis en ressources humaines au sein de la ville de Montréal.
Il y a des gros défis et puis, bon, déjà, une bonne chose, en fait, d'avoir lié les dossiers des ressources humaines avec la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Bon, il faut savoir que chaque élu, avec leur dossier, ont des rencontres statutaires à chaque semaine ou deux semaines avec le service qui s'occupe du dossier. C'est-à-dire, ce que la mairesse m'a donné aussi comme responsabilité, c'est d'avoir des statutaires chaque semaine avec le directeur général et la directrice des ressources humaines sur les dossiers des ressources humaines. Donc, ça nous donne un lien plus direct pour discuter de ces dossiers d'importance. Donc oui, il y a la lutte au racisme et discrimination systémique et la réconciliation avec les peuples autochtones
avec
qui
les
inclut
peuples autochtones, tout à
aussi
fait.
De s'assurer d'avoir davantage de personnes, des personnes, des peuples autochtones et inuits dans la fonction publique. Mais il y a aussi toutes les questions liées aux ressources humaines de base, c'est-à-dire la gestion efficace et efficiente dans le contexte financier actuel de la métropole et du Canada, là. Il y a toutes les négociations des conventions collectives qui sont en cours, etc. Donc, il y a aussi vraiment la ressource humaine, les ressources humaines pures et dures. Et je pense que la mairesse m'a octroyé ce rôle à cause de mes expériences en gestion, en fait, et du travail que j'ai fait au sein de l'arrondissement depuis les deux dernières années. On reviendra encore sur le fait qu'il y avait des défis de relations entre les ressources humaines de l'arrondissement et le politique. Puis j'ai été en mesure de faire avancer ce dossier. Donc, je crois que pour elle, c'était une preuve que je pourrais aussi être en mesure de faire avancer la ville dans ce secteur.
Est-ce qu'il y a des défis entre l'administration et les élus à la ville centrale?
Entre la fonction publique et les élus?
Entre la fonction publique et les élus?
En fait, moi, je pense que la collaboration se déroule bien dans les différents secteurs. Il y a toujours des défis liés à la temporalité.
Okay.
Dans toute fonction publique versus le politique, c'est toujours ça le défi. Le politique, on fonctionne sur un temps déterminé, c'est-à-dire pour la ville de Montréal, c'est 4 ans. Et alors que la fonction publique, elle est là, la fonction publique, elle ne partira jamais. Donc, c'est toujours de réconcilier les temporalités, donc ce qui est pressant versus ce qui ne l'est pas pour l'administration, ce qui est possible d'être fait par la fonction publique versus les priorités de l'administration. Donc ça, c'est toujours une, je dis tension, mais c'est vraiment quelque chose qui existe dans toutes les administrations, à tous les paliers de gouvernement. Mais on arrive à naviguer. Je pense que le contexte économique fait en sorte qu'on est aussi beaucoup plus réaliste. Je pense que le budget, le dernier budget de la mairesse Plante avec Luc Rabouin le démontre, c'est-à-dire qu'on se reconcentre sur le service, le B.A.B.A. de la politique municipale, là. Donc le service aux citoyens, là, les nids de poules, le déneigement, les bibliothèques, etc., ce qui est dans notre core business. On continue à travailler sur développer le futur parce que c'est important, parce que les gens vont se dire, OK, on ne peut pas juste diminuer les dépenses pour gérer ce qui se passe aujourd'hui, parce que dans 2 ans, 5 ans, vous allez nous regarder et dire, mais tout le sous-sol, là, le réseau d'aqueduc, vous avez fait quoi pendant tout ce temps-là? Donc, on doit quand même travailler sur le futur, mais on s'est vraiment refocusé sur le présent. Donc, en ce sens-là, je pense qu'on est vraiment venu s'aligner sur... on est venu aligner les différentes temporalités. Là. Tout le monde à la ville est concentré sur le service aux citoyens, la gestion des différentes vulnérabilités, itinérance, habitation, etc., et continuer à travailler là sur la préparation du futur.
D'accord. Je profite rapidement, petite parenthèse, puisque vous êtes là, pour dire à votre collègue, vous voyez là, vous parlez de nid de poule pendant qu'on fait notre émission.
J'aurais pas dû dire ça.
Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui se sont cognés là pendant qu'on fait l'émission et qui se sont fait mal.
Vous parlez du trottoir là.
Oui, le trottoir là. D'accord. Donc vraiment, on profite là pendant que vous êtes là. Dites-leur, on va prendre la photo, vous l'emmenez, s'il vous plaît.
Non, mais ça me permet de faire de l'éducation populaire. Honnêtement,
oui.
Il y a en effet une partie du trottoir qui est plus élevée. Vous savez ce qu'on doit faire plus rapidement? Il faut prendre la photo et envoyer au 311. Comme ça, l'arrondissement est au courant et pourrait venir régler. Ou okay. Sinon, vous écrivez à votre mairesse ici qui est probable. On est où ici?
C'est au coin Saint-Laurent.
Donc c'est, oui. C'est la mairesse Plante
elle-même. Mais c'est pour ça que j'ai préféré m'adresser directement à vous. Parce que ça, là, il faut que ça se répare. Ceci dit, je reviens sur un aspect, Gracia. Il y a quelque chose, quel que soit... on parlait toujours fonction publique élue.
Oui.
Ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris en termes de difficultés pour les employés racisés, par exemple, et je ne parle pas seulement de discrimination et autres, mais même en termes de promotion au sein de la ville, repose beaucoup sur l'administration. Est-ce que aujourd'hui, une élue comme vous a suffisamment de moyens, suffisamment de pouvoir pour changer la donne? Et vous parliez de temporalité, parce que vous, c'est limité dans le temps, oui. Alors que ça reste. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour quand même inverser la tendance pendant que vous êtes encore là? Parce qu'on entend, on a entendu quand même des choses qui je sais qu'on veut se concentrer sur le service aux citoyens, mais on a entendu quand même des choses par rapport à ces employés-là qui n'étaient pas très, très joyeuses.
Oui, oui, tout à fait. C'est un travail de longue haleine. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, très réaliste, tout en étant en mesure de faire preuve d'empathie et de grand respect dans mes interactions. La réalité, c'est que la ville de Montréal, à ce niveau-là, est un bateau qui va prendre du temps à faire tourner. Mais la réalité également, c'est qu'on le voit que c'est réellement une priorité de la direction générale. C'est-à-dire que parmi les priorités cette année, on a parlé d'habitation, mais il a mis noir sur blanc la question du tolérance zéro. Non seulement ça, j'ai été nommée ressources humaines, lutte au racisme et discrimination systémique. C'est les dossiers que je discute, que j'ai déjà commencé à discuter avec la fonction publique, etc. Donc, on voit dans le leadership de la ville que c'est une priorité. Toutefois, le travail, il y a encore beaucoup de travail à faire et il faut que la population... Et les employés continuent à démontrer que pour eux, c'est une priorité. Donc, c'est vraiment un travail qu'on va faire tous ensemble. Notre rôle comme élu, c'est beaucoup un rôle qui ressemble à celui d'administrateur d'organisme, en fait d'administrateur. C'est-à-dire, souvent, j'ai justement le terme en anglais, mais on dit « nose in, fingers out ». C'est-à-dire qu'on n'est pas nous ne sommes pas les personnes qui réalisons le travail au quotidien, mais nous sommes les personnes qui donnons les orientations. Donc, si le directeur général l'a mis comme priorité, c'est parce que la mairesse a aussi dit que c'était une priorité. Et c'est parce que moi, comme mairesse d'arrondissement à Côte-des-Neiges-Indigi, je l'établis comme une priorité et je l'établis comme un élément d'évaluation des différents gestionnaires. Vous voyez, donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour, dans le système, dans nos processus, faire en sorte que la question du fait qu'on ne tolère pas le racisme et les discriminations systémiques au sein de la fonction publique municipale soit une priorité, mais c'est de l'insérer dans nos processus, dans les évaluations, s'assurer que dans les processus de recrutement, qu'on puisse avoir des comités qui soient diversifiés, etc. Puis ça peut sembler long pour les gens, mais moi, je vois déjà des changements, par exemple, à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Il y a aussi toute la question...
Que vous voulez ramener donc à la ville? De manière générale.
Oui, c'est mais cette que, en fait, que c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux niveaux à la ville. Il y a ce que le directeur général fait pour l'ensemble de la ville et il y a ce que les arrondissements font, en fait. Donc, la mairesse l'a établi comme priorité, donc le directeur général de la ville aussi. Mais moi, comme mairesse d'arrondissement, je l'ai établi comme priorité chez nous. Mmh. Est-ce que le maire d'Anjou fait la même chose? Il faut lui poser la question, c'est ce que je veux dire. Parce que chaque maire d'arrondissement gère sa fonction publique localement. Donc, localement, si vous voyez qu'il n'y a pas de changement, ben, il faut aller vous adresser à votre maire d'arrondissement aussi, mmh, pour lui demander des changements.
Des changements.
Et puis, quand, juste pour terminer sur les changements structurels, il y a le guichet unique qui a été mis en place par ma collègue Dominique Olivier. Et le guichet unique qui est en train d'être déployé, c'est-à-dire c'est un guichet unique dans le sens où les citoyens vont avoir... Pas les citoyens, pardon. Les employés qui subissent du racisme et la discrimination auront un endroit à contacter pour le signifier, ou même si c'est un collègue qui voit un employé subir du racisme et de la discrimination. Donc, il y a un endroit, finalement, où les employés peuvent diriger ces informations-là pour être en mesure, finalement, après ça, de les diriger vers les différentes ressources. Mm-hmm. C'est pas parfait. Je pense qu'il y a un lien de confiance comme à rétablir entre la ville et plusieurs employés. Mais écoutez, on va y arriver, puis je vais être une alliée là-dedans. Mm-hmm.
Madame la mairesse, il nous reste quelques minutes. Je voudrais aborder avec vous rapidement deux, trois choses. On a plus ou moins évoqué ça. Vous êtes une élue noire, vous avez parlé de sororité. Tantôt, le fait que ben voilà, vous avez quand même différentes autres collègues avec lesquelles vous pouvez échanger. Oui, vous arrivez un certain nombre en l'élection de 2021. Dans différentes villes, on vous voit arriver. Vous êtes aux affaires. Toutefois, c'est aussi venu avec une accentuation, si je peux le dire comme ça, de la polarisation un peu de la vie politique. Les citoyens aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, peuvent vous dire ce qu'ils pensent, ce qui est tout à fait normal, c'est en démocratie, mais peuvent aussi vous dire les choses les plus méchantes. Il y a de l'intimidation. On a encore vu une de vos collègues qui a démissionné à Gatineau. Il y a pas une mairesse, pas une personne noire, mais mairesse de Gatineau. Toute cette polarisation-là, vous arrivez à vous, au fur et à mesure, créer une carapace pour passer à travers.
Est-ce qu'on se crée une carapace? J'espère que je ne veux pas me créer une carapace. C'est-à-dire que si on se crée une carapace pour ça, ça veut dire qu'on devient insensible à beaucoup de choses. Mm-hmm. Puis c'est la mairesse de Gatineau, je pense, l'a beaucoup évoqué. Je pense qu'on a besoin de politiciens humains. Et en ce sens, cette discussion, c'est une discussion qu'on doit avoir tous ensemble. Il y a des réelles questions à se poser sur les interactions... En fait, sur le rôle d'élu, et d'élu municipal particulièrement, parce qu'on habite là où nous sommes élus, et on peut ressentir cette pression-là très concrètement. Là, dans la rue, des gens peuvent te crier dessus, par exemple. On a une réflexion à faire parce qu'on ne veut... Moi, je dirais, je pense que je me plais à voir qu'il y a de plus en plus d'élus, monsieur et madame tout le monde, qui ont eu une carrière dans un domaine X et qui décident de s'investir en politique pour quelques années avant de retourner ailleurs. Et je pense que c'est très beau, c'est très riche, puis ça nous permet de transformer la ville selon... d'amener la ville à devenir une ville qui ressemble de plus en plus à sa population versus être une ville qui n'est que dirigée que par des élites très minoritaires, finalement. Des élites qui se sont développées une carapace, donc qui sont... Moi, quand vous dites carapace, c'est qu'il faut, devenir de moins en moins sensible aux commentaires des gens. Donc, j'espère que je ne développe pas une carapace. Je me développe, par contre, des stratégies puis des outils pour être en mesure de maintenir ma santé mentale et de me préserver là-dedans. Je vais toujours me choisir d'abord. Pour moi, la politique, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est-à-dire que pour moi, je suis là, si les citoyens, on verra en 2025 ce qui se passera, sauf que je ne me définis pas par ce rôle. C'est un privilège, mais j'ai beaucoup d'autres choses qui me définissent et je vais toujours me préserver, moi, d'abord. C'est-à-dire que si à un moment donné, je trouve que... il y a des éléments inacceptables qui m'arrivent, ben je vais déterminer est-ce que je poursuis, est-ce que je m'arrête ici. Puis les deux options sont pour moi acceptables, c'est-à-dire l'important c'est d'être bien dans le rôle qu'on exerce. Cela étant dit, je me plais toujours dans ce rôle. J'ai vécu des éléments difficiles, mais j'ai ma famille, j'ai des amis. des psychologues, je veux dire, il faut le dire, là. C'est-à-dire, je pense que c'est sain de dire que comme on va chez le médecin, je vais chez le psychologue, comme je vais au gym, etc. Mais il y a une discussion sociale à avoir, là. Puis je pense qu'on on
notamment sur le misogynoir.
Sur le misogynoir, mais je pense que plus... Je veux dire, quand t'es une femme en politique, t'as des standards qui sont différents des hommes. Quand t'es une femme jeune ou noire en politique, t'as des standards qui sont différents de la majorité, etc. Donc, il y a comme toujours une couche de difficultés supplémentaires, une couche d'excellence supplémentaire que tu dois avoir. Donc, ça, c'est sûr que c'est difficile. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une discussion sociale, publique, sur le rôle des élus. Quel est leur rôle? Comment est-ce qu'on fait pour préserver la démocratie, même la nourrir, s'assurer que la démocratie soit vibrante? La démocratie locale est belle. C'est-à-dire que des gens viennent me voir en conseil d'arrondissement pour me dire « Mon trottoir X est problématique parce que j'ai un enfant en chaise roulante qui ne peut pas être autonome parce que vous n'avez pas réparé le trottoir. » Et ils peuvent avoir accès directement à la personne qui pourrait agir là-dessus. Et ça, c'est beau. Mais il faut aussi comprendre que les personnes à qui on dit ces choses sont des humains, avec leur propre famille, avec leurs propres défis. En fait, ce sont des humains.
Tout simplement.
Et qu'il faut réfléchir à cette interaction entre humains, parce que sinon, on ne finira que par avoir des politiciens avec des carapaces au pouvoir, et ce n'est pas ce qu'on veut.
Je voudrais terminer avec... Bon, je fais comme si tout ce que je disais depuis n'était pas personnel. C'est aussi personnel, mais lorsque vous avez été élu avec plein d'autres en 2021, on parlait de démocratie, on était très contents. J'en fais partie, de voir de nouvelles générations, de nouvelles personnes arriver sur le palier municipal, que ce soit à Montréal, que ce soit à Longueuil, que ce soit à Gatineau. Bref, on en a vu des femmes noires, mais aussi des femmes arabes, des femmes latinos. Bref, on a vu un peu cette diversité, entre guillemets, un mot que je commence à ne plus tellement aimer, débarquer sur la scène publique. Ça, ce sont les élus. Ce sont celles qui sont engagées en politique. L'élection prochaine, pour ce qui vous concerne, c'est 2025. Là, tantôt, j'ai dit, c'est après votre élection que je vous ai parlé pour la première fois. Je suis certain, je croise les doigts que je vais encore vous parler en 2025. Mais pour ça aussi, il faut que les citoyens vous accompagnent. Donc, on a obtenu de la diversité. Vous avez été nombreux à vous engager. Maintenant, est-ce que les gens, les personnes, les citoyens, je pense là notamment aux personnes noires citoyennes. Est-ce que depuis que vous êtes aux affaires, vous sentez que de ce côté-là aussi, ces personnes commencent à s'intéresser à la politique, à la chose publique, au point de, pour vous par exemple, comment on appelle ça, soutenir, parce qu'il faut financer une campagne électorale, la politique ça vit aussi d'argent. Est-ce que vous sentez qu'il y a un soutien? Je sais en 2021 par exemple, la communauté congolaise, moi je l'applaudis parce qu'elle a été présente. Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres, ces communautés comme ça qui s'investissent de plus en plus, notamment dans le financement?
Mais avant même de parler de l'aspect plus partisan, je pense que, en fait, moi, je fais un travail...
Oui, sans être partisan.
Non, mais c'est-à-dire, avant même de parler de la question du financement puis du soutien concret pour une candidature spécifique, moi, ce que je veux dire, c'est que depuis que je suis arrivée, vous m'avez demandé si, je pense, si je suis présente ou accessible. Je dois être parmi les élus de ma formation qui fait le plus de représentation. Et dans toutes les communautés, je me concentre sur Côte-des-Neiges Ndidji, mais je vais aussi ailleurs. Avant de venir ici, j'étais dans une église dans Côte-des-Neiges, une église avec plusieurs personnes immigrantes, notamment congolaises et africaines.
Si je me permets, Gracia, je veux juste, pour ceux peut-être qui ne vous connaissent pas, je reviens à mon tu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ce n'est pas là maintenant que tu as commencé à faire ça. Tu
pas
as toujours été impliqué depuis des années, tu es allé un peu partout. Mais vas-y.
En effet. Donc, en fait, ça, ce que j'ai toujours fait, je le continue. Et lorsque j'y vais... Je dis aux gens qui doivent... en fait, je leur explique comment moi j'ai fait pour y arriver finalement. Donc, l'engagement social, oser parler de ses réussites, oser prendre sa place autour de la table, etc. Parce qu'une fois qu'on est une tête de réseau, c'est-à-dire à la tête d'une OBNL comme membre d'un conseil d'administration, à tous les paliers de gouvernement, les gens vont vous regarder et voir en vous une personne qui peut potentiellement s'engager en politique. Après, il y a le travail des partis politiques, puis ça, on pourra en reparler, mais je pense qu'il va falloir que tous les partis politiques, à tous les paliers de gouvernement, au lieu de juste venir dans les événements des communautés culturelles et prendre des photos, il va falloir, à un moment donné, dire qu'on va mettre une personne des communautés culturelles, des communautés noires, dans un bastion de mon parti. Parenthèse fermée. mais cette... tout ce travail de représentation fait aussi en sorte que les gens se parlent. Mm-hmm. Les gens se parlent. Il y a un père, peut-être, qui va dire à sa fille, « Regarde, ma fille, si elle est là, c'est que toi, tu peux aller aussi. » Mon père m'a déjà dit ça en voyant certaines femmes qui étaient en politique. Il me disait, « Ben, regarde, ma fille, peut-être que toi aussi, un jour, tu pourras aller là. Mm-hmm. » Donc, c'est important qu'on soit visible pour faire germer cette idée dans la tête des gens que, « Ah, mais en fait, si elle est là, ça veut dire que pour moi aussi, c'est possible. » Et ça, je le vois dans le regard des enfants. Je sais qu'on va terminer bientôt, mais mes bonbons à chaque fois. C'est quand je vais dans un camp de jour, dans une école, et qu'il y a plusieurs enfants d'un peu partout dans le monde, là, et que leur personne responsable leur dit « Alors, accueillez la mairesse de Côte-des-Neiges NDG. » Et puis, ils me regardent. Ils regardent l'adulte qui les accompagne, et puis ils me regardent, et puis l'adulte doit dire « Oui, c'est la mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. » Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est incroyable que même un enfant de quoi, 8 ans, puisse savoir qu'en fait, c'est rare. Mm. Comment l'enfant sait ça? C'est parce qu'il... Voilà. Il le voit pas. Donc, c'est important de le voir et de faire germer cette idée dans leur tête. Donc, ce travail-là, je pense, nécessairement va mener à des personnes de tout... parcours ou profil qui vont s'impliquer, que ce soit dans les organismes communautaires, en affaires, etc., que ce soit en soutenant d'autres candidates et candidats. Je pense que c'est là où ça va nous amener. On se croise les doigts. Il faut faire un travail actif pour que ça devienne réalité. Puis je reprends encore l'exemple du président de notre parti et de la mairesse Plante. Ils ont fait le choix concret. Ils ont travaillé activement pour s'assurer d'avoir le résultat qu'on a eu. C'est-à-dire que il y a des personnes noires à qui on a offert de se présenter dans des districts ou des endroits qui, depuis quelques années, votent plutôt pour leur formation politique. C'est ça en dit beaucoup, ça. Et moi, c'est ce qui a fait en sorte que moi, j'ai voulu me lancer avec eux, je l'ai dit au début. C'est-à-dire, quand j'ai vu qu'il y avait des personnes noires qui mettaient dans Rosemont, mm-hmm. j'ai dit, ah, on ne blague pas ici. Hein. Ouais. On n'est pas en train de dire que la diversité, on l'aime pour le dire, quoi. On est en train de prendre des actions pour s'assurer d'avoir un conseil municipal qui est diversifié. Donc, à la fois, les gens des communautés doivent s'engager, s'impliquer, oser, mais il y a un gros travail à faire de la part des partis politiques et des gens au pouvoir ou dans des positions de leadership pour dire qu'en fait, ils doivent prendre des actions concrètes pour s'assurer de diversifier nos lieux de pouvoir.
Il y a quelqu'un, en 15 secondes, il y a quelqu'un qui nous écoute, une dame mm-hmm. qui vous a marqué, Beverly.
Oh.
Et un mot pour elle.
Ah, oh, Bev, 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 il faut qu'on aille. Bev, on va aller manger bientôt. Beverly, Tracy
qui
John.
Qui c'est cette dame?
C'est la directrice des soins infirmiers du Suisse de l'Ouest de l'île de Montréal. C'est la seule personne qui m'a. En fait, c'est la personne qui m'a fait confiance et qui m'a donné mon premier poste en gestion, qui m'a permis de développer mes habiletés que j'utilise aujourd'hui comme mairesse. Donc, honnêtement, je ne sais pas comment ça aurait été sans cette confiance qu'elle a eue en moi. Elle m'a vue dans un poste où, selon elle, ce n'était pas à mon niveau de compétence. Puis elle a dit, ma chère, viens. Elle m'a pris par la main. Et je vais lui être éternellement reconnaissante. Puis Bev, c'est la première boss de ma vie que j'ai eue qui m'a souhaité joyeux mois de l'histoire des Noirs. J'étais saisie, je n'en revenais pas. C'était la première fois, j'avais 30 quelques années déjà. Donc, non, Bev a été une grande bénédiction pour moi. Donc, I love you, Bev.
Gracia Kasoki Katawa, merci. Merci sincèrement pour cette dernière émission dans le mois de février pour nous. Donc, évidemment, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, merci d'avoir dit oui.
On est ensemble depuis longtemps.
Je rentre pas dans les secrets. Non, mais merci d'avoir dit oui à cette invitation. Puis, Voilà, pendant une heure, là, j'espère que les gens ont compris un peu en quoi consiste « Je reviens à mon tu ». Les gens vont se demander, mais finalement, ils sont dans « tu » ou dans « vous ». Mais qu'ils ont compris le travail que tu fais, qu'ils ont compris la passion qui t'anime, qu'ils ont compris vraiment ton désir de servir, d'être au service des gens. Surtout qu'ils voient aussi en toi le modèle. Le modèle à suivre, ça veut dire impliquez-vous. Et là, je parle et puis je regarde la personne à ta gauche. Quand je dis toujours impliquez-vous, allez-y, puis c'est bien que tu aies dit valoriser vos réussites.
Oui,
je pense que voilà, il faut continuer. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite ?
À moi, mon Dieu, de continuer à nourrir l'espoir, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de travail a été fait, mais beaucoup reste à faire, et pour ça, il faut y croire. Donc, comme dirait ma mère, priez pour moi. Je vais continuer à mettre autant d'énergie et d'espoir dans tout ce qui reste à accomplir.
Merci beaucoup. Et puis, à mon frère qui nous écoute depuis Gatineau, ben je fais un salut. Et puis, j'espère qu'on va se voir bientôt. Merci beaucoup, Gracia. Et puis, voilà, tu as dit qu'on te souhaite. Puis, ben, pour ceux qui me disaient, est-ce que la mairesse est accessible? Du moins, qui me disaient, oui, dis à la mairesse. Ben, vous savez maintenant, vous pouvez lui écrire. Elle va vous répondre. C'est votre mairesse d'arrondissement. Puis, Gracia, ne pas oublier la photo de notre trottoir. On va la donner pour la mairesse. Merci et on se dit à bientôt. Mon nom est Cyril Ekwala.